carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Le domaine de Chantilly propose en 2012 un voyage au cœur du siècle des Lumières à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Un voyage en trois étapes. Le musée Condé présente l'exposition « L'esprit des Lumières » vu par Carmentel. La bibliothèque du château de Chantilly illustre un thème cher à l'histoire des Condé avec une exposition intitulée « Lumière et anti-lumière ». Et enfin, dans le jardin anglo-chinois du domaine de Chantilly et dans son hameau, des animations, des spectacles vont rythmer l'été 2012. Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé, est avec nous pour évoquer cet hommage à Jean-Jacques Rousseau à Chantilly. Madame, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie.
Avec plaisir.
Alors, le parcours du siècle des Lumières à Chantilly, quels sont plus précisément les événements à venir et quels sont les trésors de Chantilly que vous présentez, parfois en une sorte de contrepoint aux idées des Lumières?
Alors, l'exposition à l'intérieur du château se déroule en deux temps. Une première phase est consacrée à l'esprit des Lumières, vu par Carmentel, ce dessinateur amateur au service des Orléans, qui croque les personnalités les plus éminentes du XVIIIe siècle, ceux qui incarnent l'esprit des Lumières. Rousseau, bien sûr, puisqu'on est dans le cadre de la célébration de l'année Jean-Jacques Rousseau. N'oublions pas que Rousseau est mort dans l'Oise, à Ermenonville, non loin du château de Chantilly, chez Émile de Girardin. Donc, ce qui entoure Rousseau, bien sûr, est évoqué à travers les dessins de Carmentel, mais en opposition, mon collègue Olivier Bosque, conservateur en chef de la bibliothèque et des archives du château de Chantilly, présente effectivement les antilumières, car le château de Chantilly, c'est aussi le château des princes de Condé. Et les princes de Condé, on le sait bien sûr, ont historiquement mené l'opposition aux idées des Lumières. Ils étaient parmi les plus réactionnaires des membres de la famille royale, en opposition aux Orléans, au fameux Philippe Égalité, ancêtre du duc d'Aumale, le donateur de Chantilly à l'Institut de France. Et donc, Olivier Bosque a souhaité accentuer sa présentation autour d'ouvrages précieux ou moins précieux, autour à la fois de ceux qui ont porté l'esprit des Lumières, mais ceux aussi qui s'y sont opposés. Et pour cela, il va jusqu'au XIXe siècle. Pour ma part, dans la galerie de Psyché, j'accentue donc la présentation sur les dessins qui sont les nôtres et qui sont dus donc à la main de Carmentel, Louis Carogis de son vrai nom, un dessinateur amateur, à vrai dire, plutôt un géomètre, un géographe.
Un officier topographe.
Un officier topographe, oui, qui travaille d'abord pour l'armée du roi Louis XV et puis qui va entrer au service des Orléans.
Il sera lecteur du futur Philippe Égalité, d'ailleurs.
Absolument, absolument. Il travaille au service des ducs d'Orléans. Il sera très proche du jeune Philippe Égalité. Il y a d'ailleurs dans l'exposition un portrait de monsieur le duc d'Orléans étant jeune, qui est tout à fait charmant. C'est encore un adolescent. Et ça permet d'évoquer la personnalité éminente de ce membre de la famille royale, connu pour son rôle lors des états généraux pendant la Révolution, pour avoir été député, notamment à la Convention, et pour avoir bien sûr voté la mort de son cousin, le roi Louis XVI. La tâche ineffaçable
des Orléans.
Des Orléans, absolument. Il n'emportera d'ailleurs pas en paradis, puisque Philippe Égalité, on le sait, sera décapité, sera guillotiné lui-même en 93, peu après la mort de son cousin Louis XVI. Donc tous ces personnages que Carmentel va rencontrer aux côtés des Orléans, au Palais Royal, tous les hôtes qui vont être accueillis au cours des longues années où Carmentel va travailler pour les princes d'Orléans, eh bien il va les croquer. Et ça, c'est la particularité de cet artiste, qui n'est pas un grand artiste, hein, c'est un amateur, c'est pas quelqu'un...
Oui, mais quel trésor, parce que c'est tout à fait un documentaire sur le 18e. Il n'est pas peintre, mais il fait une galerie de portraits incroyable.
Il est surtout dessinateur.
Donc oui, graveur aussi.
Graveur aussi, mais dans l'exposition, ce sont essentiellement des dessins à la gouache, à la mine de plomb, aquarellés, avec des rayons de blanc, avec des rayons de couleur. C'est très charmant, c'est très frais. Ces dessins ont tous été conservés dans des albums durant de longues années. Hein. Nous avons à Chantilly la chance d'avoir pratiquement la totalité des dessins de Carmentel,
oui.
Puisqu'on en a 84 dans les collections du musée Condé.
Sur 600.
Oui, sur 600 à peu près existants.
Et comment ça se fait que vous en ayez autant à Chantilly? Quelle est l'histoire qui ramène au duc d'Aumale?
Alors, cette collection de dessins de Carmentel, en fait, elle a été acquise en Angleterre au XIXe siècle par Henri d'Orléans, donc le descendant de la famille d'Orléans, le fils du roi Louis-Philippe, le propriétaire de Chantilly aussi. Celui qui a fait de Chantilly ce qu'il est, c'est-à-dire le deuxième musée de peinture ancienne en France et l'une des plus grandes bibliothèques pour les manuscrits à peinture du XIXe siècle. Et ce personnage, qui a commencé ses études au lycée Henri IV, qui était historien, qui s'est lancé dans une carrière militaire, qui était gouverneur général de l'Algérie avant la révolution de 48, qui s'est illustré à 21 ans avec la fameuse prise de Asmara d'Abdelkader. Eh bien, le duc d'Aumale va voir sa carrière brisée à l'âge de 26 ans par la révolution de 48, précisément, qui chasse du trône son père, le roi Louis-Philippe. Ce jeune homme, muni d'une immense fortune, puisqu'il a hérité de la fortune de ses grands-oncles Condé, va donc se trouver réduit à une activité. Il est historien, il est amateur d'art, et il va chercher à constituer une collection évoquant la fameuse collection du Palais Royal, la fameuse collection des princes d'Orléans. C'était une des plus grandes galeries de tableaux après celle du roi en France au XVIIIe siècle. Alors en mémoire de ses ancêtres et de cette collection éparpillée au moment de la Révolution, Aumale va depuis son exil anglais, puisqu'il va vivre 23 ans exilé à Londres, à Twickenham précisément, près de Londres, il va chercher à acquérir à la fois des trésors de l'art français, qui comme lui sont exilés à l'étranger, et puis aussi à reconstituer des trésors de l'histoire de France, de l'art français à des époques de gloire, comme il le dit très bien dans son testament. Et parmi les éléments qu'il va trouver en Angleterre, il va y avoir les albums de Carmontel qui sont parvenus, à la suite de ventes successives, chez un major écossais, le major Duff, Gordon Duff. Et c'est auprès de lui qu'Aumale va acquérir donc ces 484 dessins qu'il va réunir dans des albums. Ils avaient déjà été classés par Richard de Lédan, qui était un amateur d'art, qui avait hérité, qui avait racheté les dessins de Carmontel après sa mort. Donc le duc d'Aumale va constituer de gros albums, où 50 par 50, il va présenter ses dessins thématiquement, les princes de la maison d'Orléans, les princes des maisons royales, les abbés de cour, les dames du monde, les dames qui tiennent salon, les artistes, les écrivains, les scientifiques, bien sûr. Et c'est une partie de ce qu'on présente naturellement dans l'actuelle exposition Carmontel pour évoquer le temps des Lumières. Donc tous ces dessins sont entrés au cours du XIXe siècle, à partir donc des collections anglaises.
Donc Carmontel, parlons-en un petit peu. Vous avez dit qu'il s'appelait Louis Carogis.
Louis Carogis, oui, en fait, il est d'une origine tout à fait modeste. Il est le fils d'un humble cordonnier de l'Ariège qui s'est établi à Paris. Et Louis Carogis prend tout de suite un nom d'artiste, un nom de plume. Il se fait appeler Monsieur de Carmontel. Il participe donc à la guerre de Sept Ans, comme topographe, comme géomètre. Il suit l'armée. Il donne des cours de mathématiques, de géométrie à des jeunes gens des meilleures classes, des classes aisées, de l'aristocratie. Et puis donc, il a cette opportunité d'entrer au service des Orléans à son retour de la guerre. Il va donc être un personnage important auprès du duc d'Orléans, qui visiblement l'apprécie beaucoup. On lui doit entre autres, c'est assez peu connu, le dessin du parc Monceau. Notre parc Monceau à Paris est dessiné par Carmontel, c'est lui qui va réaliser le plan de cet immense jardin qui sera en partie modifié, en partie altéré durant la Révolution.
Mais on lui doit beaucoup et j'ai sous les yeux un superbe livre écrit par... Laurence Châtel de Brancion, Carmontel au Jardin des Illusions, aux éditions Monet-Lahuillot, qui est préfacé par Gabriel Debreuil, le chancelier de l'Institut, et introduit par vous-même, madame. Et vous commencez ainsi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'est pas peintre, mais dessinateur. Donc, il réalise la plus extraordinaire galerie de portraits de tout le XVIIIe français. Et vous continuez en disant, il n'est pas auteur dramatique, mais il écrit de nombreuses pièces appelées proverbes. Il n'est pas architecte ni paysagiste, mais on lui doit le dessin de l'un des plus fameux jardins parisiens du XVIIIe, notre parc Monceau. Et enfin, il n'est pas décorateur, mais ses inventions enchantent les soirées et les étés d'une noblesse française en mal de distraction. Il n'est pas philosophe, mais il soutient le parti de la tolérance et de la justice dans la fameuse affaire Calas, parce qu'il avait eu des contacts avec Voltaire aussi. Et il n'est pas aristocrate, mais il fréquente les salons les plus spirituels du royaume. Alors, c'est un amateur en tout, mais un amateur très doué.
Très doué, et c'est vraiment l'esprit des Lumières. Carmontel lui-même incarne l'esprit des Lumières avec tous ses talents, effectivement, que vous avez évoqués, qu'il maîtrise tous parfaitement, mais sans être en rien un professionnel. Il papillonne, il va écrire des pièces de théâtre pour distraire la famille d'Orléans. Ce sont des scénettes, hein, c'est ce qu'il appelle des proverbes. Vous savez, quand la cour des Orléans, pendant l'été... vit au Rincy ou dans d'autres propriétés de la famille, bah quelquefois les journées sont longues, alors on s'amuse à jouer le théâtre et pourquoi pas écrire soi-même des scénettes. Alors Carmontel, bien sûr, va prendre sa plume et il va offrir aux Orléans des pièces fort drôles qu'on peut encore jouer aujourd'hui, qui vont amuser les hôtes du Rincy, la famille d'Orléans qu'il sert.
Et puis, en fait, il croquait les personnages. Donc, c'est comme des photos avant l'heure. D'ailleurs, on va parler aussi du fait que, là, j'anticipe un peu, avec sa lanterne magique et ses transparents, c'était aussi un peu le cinéma avant l'heure.
Bien sûr, c'est en quelque sorte l'intendant des menus plaisirs des Orléans, évidemment. Et un de ses rôles principaux va être d'enregistrer, quasi mécaniquement, tout ce qui compte à Paris au XVIIIe siècle. Il va faire poser devant son chevalet la plupart des philosophes, des personnalités scientifiques, des grands de ce monde. Alors, ça peut être aussi bien des dames du monde qui tiennent un salon que des grands scientifiques qui font avancer les sciences et le progrès. Il fréquente évidemment des gens comme Diderot, d'Alembert, Rousseau, Voltaire. On n'a pas forcément les portraits de tous ces hauts personnages, mais on a notamment beaucoup des dames qui tiennent salon. Je pense à Louise du Châtelet,
Madame du Deffand, Mademoiselle de l'Espinasse.
Tout à fait, qui sont présentes sur les murs de Chantilly. Et alors dans ces portraits, on comprend que Carmontel cherche à croquer l'esprit de ces personnalités, mais il cherche aussi à rendre l'esprit du temps, donc il représente ces différents modèles dans leur environnement proche ou avec des attributs qui permettent de les évoquer. Par exemple, quand il évoque Buffon, l'immortel auteur de l'Histoire naturelle et l'intendant du Jardin des Plantes, pour le roi Louis XVI, eh bien, il va le représenter devant sa bibliothèque avec les volumes de l'Histoire naturelle à ses pieds.
Des animaux, des palmiers.
Avec des animaux fossilisés, avec des animaux vivants à l'arrière-plan, dromadaires, chameaux, lions, etc. Donc tout un bestiaire qui sert à évoquer donc, la personnalité des uns et des autres. Les dames qui tiennent salon, on va les trouver justement entourées de leurs amis, dans leur salon, dans leur fauteuil, en majesté, accueillant donc, les philosophes qui viennent les visiter.
Et il faisait ça en 2 heures de temps.
Il faisait ça très très vite. Mais c'est un dessin au crayon, à la mine de plomb, avec quelques rouleaux d'aquarelle. Peut-être ne posait-il pas l'aquarelle tout de suite devant son modèle. Peut-être prenait-il ça aussi en atelier. Nous connaissons mal les délais de réalisation de ces dessins. Mais les contemporains, dont le baron Grimm, qui était son ami, nous dit qu'en 2 heures, effectivement, le portrait était croqué et mis dans les carnets.
Donc Chantilly présente dans la galerie de Psyché 30 portraits.
Alors il y aura 42 dessins en tout. En fait, les dessins qui sont fragiles, qui supportent mal l'exposition à la lumière, ne peuvent être exposés plus de 3 mois. Comme notre célébration de l'année Jean-Jacques Rousseau dure depuis le 20 mars jusqu'en septembre 2012, pour accompagner toute l'année Jean-Jacques Rousseau, qui est célébrée un petit peu partout en France cette année-ci, nous avons décidé de faire 2 rotations de dessins. Donc il y a une première exposition de 21 dessins, qui a lieu actuellement et jusqu'à la mi-juin. Et ensuite, une deuxième rotation présentera 21 autres dessins. Alors, on a groupé les personnalités dans différents secteurs, notamment les scientifiques, parce que l'esprit des Lumières, c'est déjà cela, les salons aussi, où vont évoluer les philosophes, où vont faire passer les idées de liberté, d'égalité, de tolérance, de justice. Donc, toutes ces idées sont diffusées dans les salons, c'est un de nos thèmes. Il y a aussi un thème qui est consacré à la musique, un autre au théâtre et à la littérature. Et enfin, à l'éducation, parce que Jean-Jacques Rousseau, bien sûr, s'intéresse à cette thématique-là. Et donc, on va faire tourner, en quelque sorte, différents dessins sortis de nos portefeuilles en 2 temps. Donc, on peut même venir 2 fois à Chantilly cet été, on verra 2 fois des dessins différents de Carmontel sur nos cimaises, avec des petits panneaux biographiques qui permettent d'en savoir un peu plus sur tous ces personnages qui ont illustré le siècle des Lumières.
Oui, parce qu'en fait, c'est aussi une multitude de détails.
Bien sûr.
Qui sont extrêmement révélateurs de la société de l'époque.
Bien sûr. Alors, j'évoquais Buffon parmi les grands scientifiques. Il y en a beaucoup d'autres.
Il y a Bailly
aussi. Et des moins connus. Bailly, alors qu'on connaît surtout pour son rôle pendant la Révolution française, puisqu'il a été le maire de Paris, puisqu'il a été quand même responsable de la mort de pas mal de monde, et que montant à l'échafaud, on connaît surtout de lui sa phrase célèbre, alors que le bourreau lui dit « Tu trembles, Bailly ?» Et Bailly répondant « Oui, mais c'est de froid ». Donc Bailly est surtout connu pour son épisode, pour le moment de sa vie où il est homme politique. Mais en fait, il est aussi un scientifique, avant tout un astronome, un géomètre, qui bénéficie d'un appartement dans les galeries du Louvre, c'est-à-dire des appartements réservés aux artisans d'art scientifiques au service du roi Louis XVI. Et le plafond de cet appartement, les toits du Louvre, eh bien, vont être ouverts pour que Bailly puisse installer une sorte d'observatoire pour regarder les planètes et en tirer donc des observations. Donc voilà un de ces scientifiques de l'esprit des Lumières qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui sous l'angle scientifique et qu'on connaît plutôt sous son angle politique. Mais il y en a bien d'autres. Je pense au docteur Gatti, un célèbre italien qui se vantait d'avoir mis au point le procédé de l'inoculation. Vous savez qu'une des maladies qui ravageait la société à l'époque était la variole, donc qui frappait énormément de monde et beaucoup en mouraient. Et donc, la fin du XVIIIe siècle va chercher à mettre au point la vaccination, qu'on appelait l'inoculation à l'époque, ou la vaccine. Et donc Gatti, qui est un médecin italien, pensait avoir trouvé le procédé idéal. Alors on va le faire venir en France, les ministres de Louis XVI ayant appris donc sa réputation, outre-mont, vont le faire venir jusqu'à Paris. Il va donc inoculer un certain nombre de personnes, dont des personnes de la cour. Malheureusement, l'une d'elles mourra quand même de la variole et donc Gatti repartira. Mais on sait que la science est en route et la médecine donc progresse beaucoup sous le règne de Louis XVI. On va donc désormais avoir des procédés beaucoup plus innovants pour protéger la société française.
Et Carmontel d'ailleurs connaissait Troncin, le docteur Troncin.
Oui, tout à fait.
L'a-t-il dessiné?
Je pense qu'il l'a dessiné, oui, je pense qu'il est dans nos albums.
Oui, parce que ça correspond effectivement
oui,
toujours à cette période
oui.
qui était importante. Il a dessiné aussi, il a croqué Gribeauval, qui est le premier inspecteur de l'artillerie, qui est un personnage important pour l'avenir des armées françaises.
Bien sûr. Alors il y a beaucoup d'amateurs, d'amateurs d'art. Il y a beaucoup de riches personnages dont la fortune leur permet d'acquérir des collections. Le XVIIIe siècle se passionne pour tout ce qui est scientifique. On va avoir énormément de fermiers généraux, de dames du monde, qui vont se mettre à collectionner les coquillages, les animaux empaillés, qui vont se livrer à des recherches et qui vont écrire. On écrit beaucoup et puis on va parler dans ces salons de ce qu'on écrit. On va lire des extraits de tous ces ouvrages. Donc on sent que Carmontel a participé à ces séances de lecture, à ces séances chez ces dames qui tenaient salon, qui étaient si à la mode à l'époque. Et donc il nous rend assez fidèlement l'image de cette culture du siècle des Lumières, de celle des encyclopédistes, en fait, de Diderot et d'Alembert, qui vont commander à la plupart des personnages qui sont exposés à Chantilly des articles pour l'encyclopédie, pour cette extraordinaire publication qui est l'état des sciences à la fin du XVIIIe siècle et qui est un monument de la littérature française et des sciences françaises.
Et ce qui est très étonnant pour Carmontel, c'est qu'il a, il a vécu très longtemps. Il est né en 1717, je crois, et il est mort en 1806.
Oui, c'est ça.
Donc il a connu le XVIIIe siècle,
absolument,
même un peu plus. Et comment ça s'est-il passé pour lui quand tout s'est effondré au moment de la Révolution française? Il avait l'esprit, vous l'aviez évoqué, de tolérance. Parce qu'à force de côtoyer les grands, il avait un petit peu pris du recul.
Bien sûr. Ben pour lui, la Révolution, comme pour beaucoup, va être quand même un moment difficile à vivre. Il mourra pratiquement dans la misère en 1806. Fort heureusement pour nous, ses collections et ses plus belles trouvailles, comme les transparents par exemple, seront sauvées. Donc les dessins ont été collationnés par Richard de Lédan, comme je l'ai dit, qui est un amateur d'art, qui a regroupé ses dessins, qui a cherché à les dater, qui a fait un gros travail d'historiographie.
C'était son ami de jeunesse.
Oui, c'est quelqu'un qui était proche de lui et qui a fait beaucoup pour sauvegarder son œuvre. Et alors parmi l'œuvre de Carmontel, il y a quelque chose d'assez exceptionnel dont il faut qu'on parle, ce sont les transparents.
Le futur cinéma qu'on évoquait tout à l'heure, en faisant un raccourci, bien sûr.
Le futur cinéma, oui. Alors que sont les transparents? Eh bien, on l'a vu, Carmontel était un officier au service des Orléans, une sorte d'intendant des menus plaisirs. Il avait la charge des réceptions qui se donnaient au Palais Royal. Et lorsque des réceptions étaient données, eh bien, il avait coutume, par exemple lorsque c'était l'hiver, qu'il n'y avait pas de fleurs à l'extérieur, eh bien, de placer des bougies sur les appuis de fenêtres et de coller contre les carreaux des dessins de jardin qui donnaient une impression printanière et festive. Alors il a été plus loin, et puis il a inventé le transparent, dont on conserve quelques exemplaires rarissimes. Le transparent, ce sont des rouleaux de papier, de grandes feuilles de papier quasi transparent, comme le nom l'indique, pas complètement
qui
transparent.
Qui venait de Chine,
oui,
à un moment donné, puis pendant la Révolution, évidemment.
Oui, papier Chine ou papier Japon, comme on l'appelle aujourd'hui, donc un papier très fin. Et il peignait dessus à la gouache et à l'aquarelle, toujours, donc des couleurs extrêmement flatteuses, extrêmement claires, extrêmement souriantes, riantes. Il peignait des paysages, il peignait des jardins. On sait qu'il avait une passion pour l'art des jardins, puisqu'il a dessiné le parc Monceau pour le duc d'Orléans à Paris. Et donc ces jardins s'enchaînaient feuille après feuille, les feuilles étaient collées les unes à la suite des autres, les transparents pouvant mesurer jusqu'à 42 mètres. Le plus grand d'entre eux, qui est au château de Sceaux, au musée de l'Île-de-France, qui était exposé il y a quelques années au cours d'une très belle exposition, fait 42 mètres de long. À Chantilly, on en a un autre, il y en a une douzaine en tout, qui ont été connus dans l'histoire, certains ont été malheureusement découpés. Celui de Chantilly fait 12,50 mètres et permet une promenade. Alors, il y a souvent une thématique dans les transparents de Carmontel. Le nôtre, ce sont les quatre saisons. Donc on voit le quatre temps de l'histoire des jardins et on évolue à travers un jardin princier, puis on passe dans la campagne, on voit les cultivateurs en train de travailler, on voit nos personnes de qualité se déplacer en calèche, s'arrêter dans les jardins, prendre des rafraîchissements, aller de château en château. Et alors tout cela était très vivant parce que ces rouleaux de papier étaient montés sur deux axes et il suffisait que Carmontel, avec une manivelle, les active pour qu'on voit donc les personnages avancer, la campagne se dérouler sous nos yeux. Donc ça paraissait totalement magique aux invités du Palais Royal et c'était le but recherché bien sûr par Carmontel. Donc ça, c'est une de ses spécialités. Il a d'ailleurs rédigé un mémoire sur la manière de réaliser les transparents, mémoire qui est conservé à la bibliothèque Doucet, qui a été fort heureusement sauvegardé.
Et donc, ce Carmontel, et c'est une des grands plaisirs de le voir cet été à Chantilly, vous avez organisé des parcours dans le jardin anglo-chinois du domaine de Chantilly et dans le hameau que Marie-Antoinette, d'ailleurs, a plus ou moins copié à l'époque.
Alors Marie-Antoinette, elle n'est pas venue à Chantilly, mais en revanche, son architecte, Richard Mick, s'est très probablement beaucoup inspiré du hameau des Princes de Condé. Oui, puisqu'en 1775, Louis-Joseph, prince de Condé, duc de Bourbon, fait créer par son architecte Jean-François Leroy un groupe de maisonnettes d'aspect rustique. Il y en avait 7 à l'origine, il nous en reste 5 aujourd'hui, après les désastres révolutionnaires. Et donc ces maisonnettes avaient l'air de maisons paysannes, de pavillon à colombage, très simple, une petite fermette, etc. Et puis en fait, quand les invités des princes de Condé étaient invités à venir prendre une collation à l'intérieur de ces maisons rustiques, de ces chaumières, parce que certaines ont des toits de chaume, eh bien ils découvraient un luxe tout à fait inouï et ils avaient toujours une surprise étonnante. La plus grande d'entre elles, qu'on appelle le salon, avait un décor de mobilier tout à fait princier, avec des mobiliers d'argent, avec des tentures de soie rose, enfin c'était extraordinaire. Une autre grande chaumière qu'on appelle la salle à manger, puisque c'était l'usage au temps des Condés, elle avait sur les murs tout un décor peint qui figurait un sous-bois. Donc on entrait dans cette maison, dans cette chaumière, et on avait l'impression de se trouver en plein bois. Le sol était recouvert d'herbes, avec différentes plantes qui étaient plantées dans le sol même de la chaumière. Donc tout était fait pour donner l'illusion. Ça c'est vraiment l'esprit du XVIIIe siècle. Mais extérieurement, on avait l'impression d'être dans un hameau paysan, où les princes de Condé recevaient eux-mêmes. Alors effectivement, ce retour à la nature, ce goût pour une société simple, champêtre, c'est une des constantes du siècle des Lumières, c'est une des grandes idées de Jean-Jacques Rousseau, des philosophes de son époque. Et bien sûr, Marie-Antoinette, même si elle n'est pas venue à Chantilly, et son architecte Mick se sont inspirés de ce hameau des princes de Condé, puisque 8 ans après Chantilly, ils vont à leur tour réaliser, donc à Trianon, non loin du château de Versailles, dans le fond du parc du château de Versailles, le hameau de la Reine. Mais c'est vrai que celui de Chantilly a l'antériorité de quelques années, de 8 ans. Et il a connu donc sans doute aussi beaucoup de personnalités éminentes du XVIIIe siècle, dont l'empereur Joseph II, dont Mesdames de France et filles de Louis XV, dont le futur tsar Paul Ier. La plupart des têtes couronnées venaient à Chantilly au XVIIIe siècle et profitaient de ce lieu. Alors pour compléter donc le parcours au siècle des Lumières, il fallait bien sûr emmener notre visiteur au-delà des dessins de Carmontel dans le musée Condé, au-delà du cabinet des livres et de l'exposition des antilumières et des lumières, il fallait emmener le visiteur découvrir ou redécouvrir le jardin anglo-chinois, car autour du hameau, il y a un jardin à la mode du temps, donc un jardin dessiné en 1774, toujours par le roi, qui s'inspire en partie des jardins naturels, jardins anglais d'une part, mais aussi jardins asiatiques, jardins avec des petits ponts japonais, avec des faux enrochements, il y avait un port des pirogues. Donc tout ceci mérite d'être vu par nos visiteurs. Et pour rendre sensible ce qu'était le siècle des Lumières, de grandes bâches plastifiées présentes évoquent certaines des œuvres qui sont présentées dans le château pour renvoyer les visiteurs, bien sûr, sur la visite de nos expositions temporaires. Et c'est dans ce lieu enchanteur du hameau que l'on présentera plusieurs pièces sur le XVIIIe siècle. Alors une qui est consacrée à Jean-Jacques Rousseau, qui est une pièce contemporaine. Et puis une autre, beaucoup plus connue et beaucoup plus ancienne, puisqu'on va jouer le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux cet été, en juillet-août, au hameau du domaine de Chantilly, en plein air. Donc ça devrait être enchanteur.
Vous parlez d'artistes pour Carmontel, mais il y en a un grand, c'est Mozart qui est là.
Absolument, le jeune Mozart, enfant, qui avait fait une grande tournée, dirait-on aujourd'hui, dans l'Europe occidentale, eh bien, est venu en France en 1763-1764. Il a joué devant la cour, il a rencontré les Orléans et Carmontel a eu le bonheur donc de croquer le jeune Mozart, enfant, jouant du piano avec son père et sa sœur aînée. Donc c'est un dessin très connu qu'on connaît tous pour l'avoir vu sur nos pochettes de disques, sur nos CD, sur des ouvrages musicaux. Et donc ce dessin est à Chantilly, on l'a parfois oublié, donc c'est un vrai plaisir d'évoquer ce grand musicien du XVIIIe siècle.
Il y avait aussi, puisque nous parlons de musique, Rameau, qu'il a
absolument
portraituré avec beaucoup de causticité, parce que je crois qu'il l'a fait très maigre parce qu'il était très avare.
Il a un physique, oui, assez typé, on va dire. C'est un personnage, oui, maigrissime, étonnamment desséché, âgé d'ailleurs, dans ce dessin. Mais on sent bien la personnalité de ce monsieur, qu'on sent un petit peu dur et rigide.
Oui, donc,
mais qui est un grand musicien.
Bien sûr. Grâce à Carmontel, on peut avoir toute une série, presque, on peut dire, une série sur les cénacles intellectuels et artistiques.
Tout à fait, tout à fait. C'est tout l'esprit des Lumières qui se déroule sous nos yeux.
Eh bien, merci beaucoup, Nicole Garnier. Je pense que tout le monde aura envie d'aller honorer Jean-Jacques Rousseau. Grâce à vous, Chantilly, vous avez su découvrir et faire découvrir encore les trésors de Chantilly. Merci beaucoup.
Merci à vous.